Il est important de se questionner sur soi-même, en particulier quand on en ressent fortement le besoin, quand on se sent totalement différent et que l'on n'a pas les mots pour pouvoir expliquer cette différence. Le choix de passer un diagnostic et d'entamer cette recherche pour vous, ça vous appartient et personne n'a le droit de remettre en cause votre décision et vos choix personnels. Il faut tout de même savoir que ça remue énormément, en particulier quand on est hypersensible. Déjà, quand en normal, si sur les réseaux sociaux je vois une vidéo qui va profondément m'affecter, je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre. Alors imaginez-vous, vous posez des questions intérieure très profonde sur vous-même. Moi, ça m'a remué pendant des mois, même pendant des années. Mais ce travail, malgré tout, même s'il est dur, a un côté très positif. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante avec moi-même parce que je comprends pourquoi je suis différente.
Bonjour à toutes et à tous. Et bienvenue pour ce deuxième podcast participatif. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autisme. Je vais laisser la parole à deux personnes, Elsa et Karine, qui parleront de l'autisme au féminin, de leur propre vécu, de leur parcours. C'est extrêmement touchant pour moi d'écouter ces témoignages parce que ça me parle directement dans le sens où ça me touche par rapport à mon vécu personnel. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir. Si toi tu te poses des questions sur ton fonctionnement, que tu sois au potentiel d'ailleurs, ou probablement autiste, ou que tu te poses des questions sur ton entourage, ou tout simplement par curiosité pour découvrir cette richesse de fonctionnement, cette richesse de vécu, de personnalité, enfin, vraiment, je remercie les filles d'avoir partagé ça. Je suis vraiment très 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 heureuse de vous faire découvrir, alors sans plus tarder, je vous laisse découvrir et écouter. À très bientôt.
Je m'appelle Elsa, j'ai bientôt 32 ans, je suis gestionnaire. Et j'ai une passion dévorante dans ma vie, qui est celle du théâtre. Depuis que je suis enfant, je pratique le théâtre et je suis passionnée par les pièces, les acteurs, les metteurs en scène, les textes.
Je me suis intéressée à l'autisme il y a environ 2 ans. Avant ces 2 ans, je ne m'étais jamais questionnée sur l'ensemble des thématiques concernant la neurodiversité. Je savais que j'avais une différence, et ce depuis l'enfance, mais je n'arrivais pas à trouver le mot exact, ni le terme exact, qui permettait de désigner cette différence. Quand j'étais petite, je m'étais inventé une histoire. Je m'étais dit que mes parents étaient forcément extraterrestres et qu'ils m'avaient laissé sur la Terre afin que j'étudie la race humaine. Je devais alors entamer tout un travail, un processus de découverte et de compréhension des êtres humains. Et une fois que j'aurai la clé de la compréhension, eh bien, peut-être que je pourrai retrouver mes parents et peut-être que je pourrai vivre sur ma véritable planète. Évidemment, on invente ça pour se rassurer, pour se trouver une raison de vivre, un élément qui permette de se raccorder à quelque chose de tangible. Parce que pour moi, ce questionnement, il a toujours fait partie de moi. Et il a fallu 32 années pour me permettre d'arriver à cette réponse ultime. Ma différence, elle était notable, notamment par rapport à mon rapport au jeu. J'avais des jeux qui étaient diamétralement différents des enfants de mon âge. J'adorais jouer avec les miroirs. J'adorais les dioramas, c'est-à-dire des scènes figées que je pouvais passer des heures à observer. J'adorais les jeux avec les couleurs. J'ai toujours été attirée par les couleurs. La seule personne avec qui je jouais, c'était ma sœur, et nous avions toujours les mêmes scénarios de jeu. C'est-à-dire que nous avions répertorié différentes histoires que l'on reproduisait inlassablement. Alors ces histoires, elles étaient toujours basées sur des choses qu'on avait vues, des films ou des histoires qu'on avait lues. On adorait regarder des films, mais jusqu'à l'écœurement, à tel point qu'à un moment donné, on connaissait les dialogues par cœur. À la fin, les phrases des comédiens, ça devenait des gimmicks qu'on répétait inlassablement, inlassablement, inlassablement. Et encore aujourd'hui, on les a gardés. Je ne me rends pas compte, en fait, à cette époque, que je suis en total décalage avec les autres enfants de mon âge. Lorsque j'évoque avec eux des sujets tels que le cinéma, et par exemple des auteurs tels que Jacques Tati ou le cinéma de Renoir, je ne me rends pas du tout compte que j'ai une façon d'aborder une thématique qui toucherait un adulte et non un enfant. Il y a d'autres décalages qui petit à petit se font sentir. À l'école, je n'arrive pas à me concentrer. Il y a trop de bruit, il y a trop d'éléments, une organisation qui ne me convient pas. Je me rappelle de certaines odeurs qui me dérangent, ou encore des lumières que je ne supporte pas. Sur mes bulletins scolaires reviennent toujours les mêmes informations, dans la lune, effacées, rêveuses, absentes. Et c'est vrai que moi, je m'ennuie en classe, en fait, je m'ennuie. Mais l'idée qui ressort de ça, c'est qu'en fait, je suis nulle. Et à partir de ce moment-là où on dit cette information et on me le dit, tu es nulle, cette information restera gravée en moi. Si je n'y arrive pas à l'école, tout simplement, c'est parce que non seulement je suis gauchère, mais en plus, je suis nulle. Il y a deux crises importantes durant mon enfance. Quand je parle de crise, je ne parle pas de moments de colère ni de caprice. Je parle de deux crises. À cette époque-là, je n'ai pas de mots pour ça. Mais maintenant, je sais que ce sont des crises. La première se passe à l'école. Je suis prise à partie par une enseignante qui m'accuse d'avoir fait quelque chose alors que je ne suis pas à l'origine de la problématique. Et mon cerveau disjoncte, c'est-à-dire que je suis dans l'incapacité de pouvoir m'expliquer face à cette injustice. Et ce moment, j'ai un flash lumineux dans ma tête, parce que je n'arrive pas à me rappeler ce qu'il s'est passé. Je me souviens juste de pleurer inlassablement et de hurler. Le deuxième se passe dans un supermarché où ma mère m'emmène faire les courses et il y a une incompréhension entre moi et ma mère. Et là, c'est pareil. Il y a une surcharge de trop d'informations, trop de bruit, trop de lumière, une injustice présente. Et c'est pareil, mon cerveau disjoncte. Petite, j'ai des problèmes d'interaction avec les autres. Je ne comprends pas comment on peut créer un lien social avec mes camarades. Et à un moment donné, j'ai un déclic. Je me rends compte que si je reproduis certains gestes, certaines mimiques ou habitudes de mon interlocuteur, ou si je parle de la même façon que lui, en utilisant les mêmes termes, il va me considérer comme faisant partie de son environnement et va m'intégrer plus facilement à son groupe d'amis. Alors, je pars à étudier l'ensemble des individus qui font partie de ma classe et j'arrive à constituer un groupe d'amis. Cependant, je ne suis pas vraiment moi-même dans ce groupe d'amis. Je suis le reflet de ce qu'ils attendent de moi, mais je ne suis pas moi-même. Je deviens un caméléon. J'arrive à me fondre dans le décor. Et je comprends que ce stratagème, il peut être mis en place partout. En parallèle à cette période, ma mère, qui souhaite que je puisse avoir des interactions sociales plus grandes, m'inscrit à un cours de théâtre. Et c'est à ce moment-là que je comprends comment on constitue les bases d'un dialogue. Et ce moment-là va être très important pour moi, parce qu'à partir du moment où j'aurai mis le pied dans le théâtre, eh bien, je n'arriverai plus à en sortir. Lorsque je suis montée pour la première fois sur scène, j'ai compris que c'était à cet endroit-là que je devais être, et que sur cet endroit-là, tout était permis. À l'adolescence, ça devient compliqué. Déjà, pour un individu lambda, l'adolescence n'est pas une période des plus heureuses. Alors, pour un autiste Asperger, c'est encore plus compliqué. Et c'est 10 fois plus compliqué quand on ne sait pas qu'on est autiste Asperger. Le collège a été une longue période de souffrance, où j'ai vécu pas mal de harcèlement scolaire. Malgré tout, je suis une personne relativement têtue et déterminée. Je savais que mon temps à passer dans un collège était relativement court et que peut-être après viendrait le lycée où la période de légèreté et de possibilité de s'exprimer allait peut-être être plus intéressante. À tel point que je n'ai pas aimé mon collège, j'ai choisi à la fin de saborder leurs résultats. Je me suis posé la question, Comment peut-on déterminer si un établissement scolaire est un bon établissement scolaire à son taux de réussite aux examens? J'ai donc décidé de ne pas avoir mon brevet, simplement pour les embêter et simplement pour faire chuter leur taux de réussite. Malheureusement, un individu sur 600, ça n'a pas un grand poids. Cependant, pour moi, j'ai marqué mon histoire scolaire par le biais de cette aventure. Par la suite, j'ai poussé mes études dans différents domaines. Je suis une touche à tout et j'ai besoin de tout connaître. Dans la biologie, ensuite ça a été les arts, ensuite ça a été le milieu culturel, puis ça a été le milieu de l'assistanat de direction. Et ça a été pareil dans mes métiers. J'ai fait plein de métiers différents, j'ai eu plein de vies en une vie. Que ce soit médiatrice, que ce soit secrétaire, que ce soit chargée d'accueil ou encore gestionnaire. J'ai changé plein de fois de métier et je suis persuadée que je vais encore en changer. Je suis un peu une instable, mais c'est plutôt une instabilité dans l'idée de chercher toujours l'information et de toujours vouloir renouveler. Ce côté, il est un peu ambivalent, parce qu'autant je m'ennuie souvent et il me faut un regain d'information permanent, mais autant mon côté autiste Asperger fait que le changement, c'est compliqué. Je déteste les changements et je déteste les scénarios surprises. Pour moi, il n'y a rien de pire qu'une surprise. À un moment donné, on passe un cap dans sa vie et on a besoin de se questionner sur qui on est véritablement. Et c'est vrai que c'est en partie grâce à mon compagnon que je me suis rendu compte de certaines divergences chez moi. Par exemple, pourquoi est-ce que c'est compliqué pour moi de conduire et d'enchaîner les actions? Pourquoi est-ce que c'est compliqué pour moi de cuisiner et de savoir quelles étapes il faut faire en premier? Pourquoi est-ce que pour moi, faire les courses, c'est une souffrance et que les courses, ça dure 3 minutes, montre en main? Pourquoi est-ce que j'ai constitué des dialogues mentalement si jamais je venais à croiser ma voisine? Pourquoi est-ce que je ne reconnais pas tel individu dans la rue alors que je sais que je le connais? Pourquoi est-ce que je l'ai confondu avec quelqu'un d'autre? Pourquoi est-ce que je suis très premier degré? Pourquoi est-ce que je ne comprends pas les blagues et les sous-entendus? Pourquoi est-ce que, pour moi, chaque jour de la semaine ont une couleur? Pourquoi est-ce que je peux pas écouter les Pink Floyd? Plein de questions comme ça, aussi bizarres les unes que les autres. Et puis un jour, je rencontre une connaissance en cursus de psychologie. Comme je suis très curieuse, j'aborde plein de questions avec elle. Sur la neurodiversité. Et je lui parle de certaines de mes particularités. Et là, elle tique et elle me dit « Tu devrais peut-être te questionner sur l'autisme. » Alors moi, quand elle me dit ça, ça me fait sourire. Parce que pour moi, l'autisme, ce sont des très grandes lignes et beaucoup de stéréotypes. Et puis elle me dit « Tu devrais aller sur Internet et passer l'Aspi Quiz. » L'Aspi Quiz, c'est un questionnaire sans valeur médicale mais qui permet de donner une tendance à savoir s'il est conseillé ou non de consulter un professionnel de santé. Alors, je suis allée passer l'Aspi Quiz, et le résultat de cet Aspi Quiz me disait d'aller voir une professionnelle de santé qui allait me permettre d'étudier la probabilité d'un éventuel autisme Asperger. Moi, j'habite une petite ville de province, et je me suis dit, moi, une psychologue qui va gérer cette thématique, je ne suis pas certaine d'en avoir une dans ma ville. Et le fait est que si, il y a une psychologue agréée spécialisée dans ma ville. Je l'ai rencontrée, non sans crainte parce que pour moi, le rapport avec une psychologue était tout à fait inédit et encore une fois, j'avais énormément de stéréotypes. Mais cette professionnelle, elle a balayé d'un revers de manche tous les stéréotypes que j'avais. Je me suis retrouvée face à quelqu'un de très professionnel, souriant, avec beaucoup d'humour, qui m'a de suite détendue. J'ai passé plusieurs mois avec elle à faire ce que l'on appelle l'anamnèse, c'est-à-dire l'étude de tous les éléments constitutifs de votre enfance et de votre vie. Au bout de plusieurs mois, elle m'a dit que pour elle, elle n'avait pas de doute que j'étais bien autiste Asperger. Elle m'a conseillé de passer un test de QI. Dans ma tête, depuis enfant, je suis nulle. Elle m'a fait passer le test de QI. Et lorsque les résultats sont arrivés, il s'est avéré que j'avais un QI supérieur à la normale. Quand elle m'a annoncé ça, mon cerveau s'est dit « Non, attends, on te ment, c'est faux. » Je lui ai demandé « Pourquoi est-ce que vous me mentez? Est-ce que vous avez pitié de moi ?» Le syndrome de l'imposteur qui venait me dire « Bonjour. » Il s'avère donc que pour elle, j'étais autiste Asperger à haut potentiel intellectuel. La problématique des psychologues indépendantes, c'est qu'elles n'ont pas forcément la possibilité de faire des diagnostics et des validations. Pour cela, il faut passer par un médecin. Elle m'a alors conseillé de constituer mon dossier pour le centre de recherche autistique. La problématique des centres de recherche autistique, c'est qu'ils sont noyés sous les demandes et que, dans la majeure partie des cas, les enfants sont prioritaires, ce qui est normal. Malgré tout, j'ai constitué mon dossier. Ensuite, elle m'a donné un contact d'une professionnelle qui consultait en libéral. Et le temps a joué avec moi. Le Covid est arrivé. Et là, je me suis dit, il n'y a plus d'espoir. Tu vas devoir attendre encore 2 ou 3 ans pour pouvoir passer un diagnostic avec soit cette professionnelle en indépendante ou soit le centre de recherche autistique. Mais là, un petit miracle. Le Covid a fait que l'ensemble de ces professionnels de santé et le CRA qui, moi, devait me recevoir, ont fait passer des entretiens par vidéoconférence. J'ai donc passé pendant le confinement mon entretien avec cette professionnelle libérale. Ça a été un diagnostic long, compliqué, sur plusieurs heures, avec encore une fois une anamnèse et une série de tests. Je suis ressortie de ces heures d'échange et d'analyse très fatiguée, et il s'est avéré qu'à la fin de ce rendez-vous, le diagnostic tombe. Je suis autiste Asperger au potentiel intellectuel. Lorsque j'ai cette information, mon cerveau revient à la charge. Attends, c'est juste une professionnelle en indépendante qui te dit qu'elle t'a pas donné ça comme information pour te faire plaisir. Peut-être que c'est ça en fin de compte que tu recherches. Ah, il est sympa mon cerveau. C'est vrai que en plus, j'avais pas voulu le nourrir d'informations. Lorsqu'on m'a parlé d'autisme et que j'ai commencé mon suivi en indépendant avec ma psychologue, je n'ai pas voulu me renseigner sur l'autisme. Parce que je me disais, si jamais tu prends des informations, peut-être que, en fin de compte, c'est toi l'imposteur. Tu vas prendre l'ensemble de ces informations, tu vas les restituer. Donc je me suis dit, tu te mets en mode sécurité. Tu ne lis rien, tu n'écoutes rien, tu ne vois rien. Tu dis seulement ce qui constitue ta vie. Donc mon cerveau était tout fier de lui, parce que pendant plusieurs jours, je n'ai pas parlé suite aux résultats de ce diagnostic. J'étais muette, j'étais sidérée. Je me disais, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce qu'on me ment ou pas? Et puis, la surprise. Une semaine après, je suis contactée par le centre de recherche autistique. Ils ont une place pour me recevoir début juin. Et là, je dis, tu vois, cerveau, eux, il y a différents professionnels. Donc, s'ils me disent la même chose que ma psy, et que la professionnelle en libéral, alors il n'y aura plus aucune raison de douter. J'ai été reçue, et encore une fois, c'est un moment très long, stressant, fatigant. Là, je me suis retrouvée face à une infirmière, 2 psychologues, un médecin psychiatre, et par la suite, un psychomotricien. J'ai passé toute une série de tests. J'ai fait encore, pour la énième fois, une anamnèse. Et le diagnostic tombe. Je suis autiste Asperger au potentiel intellectuel, avec en prime, et ça c'est cadeau, une petite dyspraxie. Il est important de se questionner sur soi-même, en particulier quand on en ressent fortement le besoin, quand on se sent totalement différent et que l'on n'a pas les mots pour pouvoir expliquer cette différence. Le choix de passer un diagnostic et d'entamer cette recherche pour vous, ça vous appartient et personne n'a le droit de remettre en cause votre décision et vos choix personnels. Il faut tout de même savoir que ça remue énormément, en particulier quand on est hypersensible. Déjà, quand en normal, si sur les réseaux sociaux je vois une vidéo qui va profondément m'affecter, je vais mettre plusieurs jours à m'en remettre. Alors imaginez-vous, vous posez des questions intérieure très profonde sur vous-même, moi ça m'a remué pendant des mois, même pendant des années. Mais ce travail, malgré tout, même s'il est dur, a un côté très positif. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus confiante avec moi-même, parce que je comprends pourquoi je suis différente. Malgré tout, du fait que je sois têtue, pour moi, ce n'est pas un faire-valoir et j'ai envie d'aller au-delà de ça. Mais ça, c'est lié à mon caractère. Bien sûr, que je vais demander des aménagements à mon travail. Bien sûr que maintenant je vais faire beaucoup plus attention à moi et que je vais m'économiser. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Faites-vous confiance. Allez jusqu'au bout de votre démarche. Que vous soyez autiste ou non autiste, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est vous et ce que vous avez envie de faire pour vous. Parce que vous êtes la personne la plus importante au monde.
Salut, je m'appelle Karine, j'ai 21 ans. Vous me connaissez sûrement sous le nom de Bluebird, c'est le pseudonyme que j'utilise sur le compte Instagram militant que je tiens, qui s'appelle Parler de ma vie, sur lequel je raconte mon quotidien. Je suis étudiante en master de production audiovisuelle et je voudrais absolument travailler dans le cinéma d'animation. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est passer du temps avec les personnes que j'aime. Ma famille, mes amis, mon amoureux. La première fois que j'ai envisagé la possibilité d'être autiste, ça devait être il y a peut-être 3 ou 4 ans. Je savais déjà plus ou moins que j'étais une personne à haut potentiel et je savais aussi en me renseignant un peu que l'autisme et le haut potentiel avaient beaucoup de choses en commun et du coup j'ai commencé à me poser un peu la question. Le truc c'est que la première fois que j'en ai parlé à une personne de ma famille, c'était à mon père et tout de suite il a dit que c'était pas possible. Que je communiquais trop bien, que j'étais trop à l'aise avec les autres pour être autiste. Du coup, j'ai enfoui un peu cette idée au fond de moi et j'ai plus jamais vraiment repensé. C'est pendant les vacances de Noël l'année dernière que c'est revenu. Ce qui s'est passé, c'est que ma mère m'a fait lire une bande dessinée. La BD de Julie Dachaise, La différence invisible. Elle me l'a fait lire et elle m'a demandé quand j'avais fini ce que j'en avais pensé. Et quand je lui ai dit que j'avais trouvé que je me reconnaissais beaucoup dans le personnage de cette bande dessinée, ça l'a fait sourire et elle m'a expliqué à ce moment-là que ma marraine avait été diagnostiquée autiste. Pas très longtemps avant. Et c'est comme ça que j'ai commencé à en parler avec ma mère et avec ma marraine. Ça a été un peu une sorte de révélation. Au début, c'était un peu étrange, et puis à force d'en parler avec elle, je me suis rendu compte de plein de choses. J'ai toujours été super proche de ma marraine. Je me suis toujours super bien entendue avec elle. C'était vraiment, vraiment une relation particulière que j'ai jamais eue avec les autres personnes de ma famille, que j'ai jamais réussi à avoir. Et d'un coup, ça a paru évident en fait que si on avait cette relation si particulière, c'était probablement parce que moi aussi, j'étais autiste. J'étais comme elle et j'avais les mêmes décalages avec les autres. Et que du coup, on se comprenait en fait. Donc, ça a fait son petit chemin. Et j'ai commencé aussi à intégrer des groupes sur Facebook, à lire de plus en plus de témoignages sur d'autres personnes autistes. Et plus je lisais de témoignages, plus je parlais avec ma marraine que je finissais par appeler presque toutes les semaines, plus ça avançait et plus je découvrais de nouvelles choses sur moi Et c'était la première fois de ma vie qu'un mot, un seul mot, arrivait à expliquer toute ma vie. En fait, le mot autiste, il est venu donner un sens à ma vie entière. Maintenant, quand je regarde ma vie, je peux trouver une explication à absolument tout ce qui s'est passé dans ma vie, depuis que je suis toute petite, de mes plus vieux souvenirs, jusqu'à aujourd'hui. Et tout est expliqué par ce mot, en fait. Et c'est ça qui est incroyable. Et ça fait un bien fou. Je me suis sentie tellement soulagée. Et je pouvais plus m'arrêter. J'essayais de lire absolument tout ce que je pouvais trouver sur le sujet. J'arrêtais pas d'en parler. Et ouais, ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a rapproché encore plus de ma marraine. Et c'est grâce à elle. C'est grâce à elle maintenant que je sais que je suis autiste. Et que ça a changé ma vie.
Raconte-nous ton diagnostic.
Pour ce qui est de mon diagnostic, j'ai pris la décision très très vite. En une ou deux semaines, je me suis décidée à entamer les démarches. Au début, je voulais passer par le public. J'ai commencé un peu à me renseigner et j'ai découvert qu'à Paris, on pouvait passer soit par le CRA, soit par des centres experts. Donc j'ai contacté le seul centre expert qui prenait des adultes. Et puis j'ai aussi contacté le CRA. Le truc, c'est que le CRA m'a juste renvoyé vers les centres experts et vers des psychiatres libéraux. Donc je me suis dit que soit ils avaient pas de place, soit ils prenaient aussi que les enfants. Et j'ai contacté le centre expert de Versailles, qui eux m'ont dit d'envoyer un dossier, tout ça, donc c'est ce que j'ai fait. Mais je voulais quand même mettre toutes les chances de mon côté et entamer deux démarches de diagnostic différentes pour avoir soit un diagnostic plus tôt, soit peut-être avoir plus de chances d'avoir un diagnostic positif. Donc, j'ai commencé à me renseigner sur le privé, sur les psychiatres en libéraux, et j'ai réussi à en trouver un. Conventionné secteur 1, donc remboursé par la sécurité sociale, vraiment bien, qui faisait pas de dépassement d'honoraires. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous en une semaine. J'étais vraiment, vraiment stressée pour ce premier rendez-vous. J'avais vraiment peur que le psychiatre me dise que je me trompais, que c'était pas ça ou ce genre de choses. Donc je me suis préparée, j'ai préparé ce que j'allais lui dire, je me suis refait tout mon speech dans ma tête. Et voilà, donc au premier rendez-vous, tout s'est très bien passé, même si j'étais très stressée. Je lui ai expliqué mes difficultés, on a discuté, etc. Et à la fin de l'entretien, il m'a dit que selon lui, mes démarches étaient légitimes, que j'avais raison de chercher là-dedans. Et il m'a expliqué comment lui, il fonctionnait. Donc lui, son fonctionnement, c'était de faire 3 rendez-vous, donc, dont le premier rendez-vous. Le deuxième était consacré à compléter un dossier médical très détaillé, avec notamment toutes les infos dont j'avais parlé dans le premier rendez-vous, mes difficultés, mais aussi des choses liées à mon enfance, ce genre de choses. Et le dernier rendez-vous pour faire le diagnostic. Sachant que, en plus de ça, avant le troisième et dernier rendez-vous du diagnostic final, je devais aller voir une neuropsychologue qu'il m'a recommandée et dont il m'a donné le contact. Pour passer les tests, donc la VICE pour le QI et la DOS pour l'échelle de diagnostic de l'autisme. Le deuxième rendez-vous, j'ai pu l'obtenir assez vite aussi. On a complété mon dossier, ça s'est très bien passé. Et ensuite, j'ai réussi à obtenir un rendez-vous au mois de février 2020 avec la neuropsychologue pour passer les tests. Donc, certains neuropsychologues les font passer en une seule fois. Moi, elle préférait les faire passer en deux fois parce que ça peut être très fatigant. Donc, j'avais deux rendez-vous de 2h30 calés chacun à une semaine d'intervalle. Le premier pour passer la VICE et le deuxième pour la DOS. Je suis arrivée très en avance au rendez-vous parce que je m'étais plantée dans l'heure de rendez-vous et du coup j'étais partie beaucoup trop tôt de chez moi. Donc je suis arrivée très très en avance. Ça n'a pas vraiment posé de soucis. Elle m'a dit que c'était pas la première fois que ça arrivait. Et voilà. Je peux pas vraiment détailler les tests parce que il faut pas influencer les personnes qui souhaiteraient faire un diagnostic. Toujours est-il que la veille, ça s'est bien passé. C'était vraiment très fatigant. Mais la neuropsychologue m'a tout de suite mise très à l'aise. Voilà, ça s'est vraiment très bien passé. Et suite à la veille, ça m'a fait passer aussi un petit test complémentaire pour essayer de voir comment je réagissais par rapport à des faux pas sociaux, on va dire. Et donc la semaine suivante, j'ai passé la DOS et c'est là que c'est devenu un peu compliqué. Le test s'est bien passé en soi, j'étais toujours autant en confiance, tout allait bien. Mais à la fin du test, elle m'a dit que selon elle, je n'étais pas autiste. Et là, ça a été un peu la douche froide. Je me suis mise à pleurer parce que la fatigue, la pression, tout ça, c'était un peu trop. Et donc elle m'a expliqué pourquoi elle pensait que je n'étais pas autiste. Comme quoi j'avais de trop bonnes facultés de communication, que je regardais trop bien dans les yeux, que mon regard était trop fluide, que je comprenais trop bien les émotions, ce que c'était l'amitié, l'amour, ce genre de choses. Et sur le coup, j'ai pas su quoi lui répondre en fait. J'avais plein de réponses qui sont venues après, mais sur le coup, j'ai pas su quoi répondre. Aussi que mes intérêts spécifiques n'étaient pas suffisamment restreints ou pas suffisamment stéréotypés, ce genre de choses. En sortant du rendez-vous, je me sentais vraiment très très mal. J'avais envie de pleurer, j'étais vidée, je crois que j'ai fait un shutdown après. Je suis rentrée chez moi et j'en ai parlé à ma marraine. Je lui ai tout expliqué et elle était très en colère contre la neuropsy parce que effectivement, selon elle, c'était beaucoup des clichés qu'elle m'avait ressortis et que aussi, bah, c'était très compliqué parce que la difficulté de se faire diagnostiquer quand on est adulte, c'est qu'on s'est beaucoup suradapté depuis longtemps. En plus, moi, je fais du théâtre, donc ça m'a appris pas mal de choses au niveau des émotions, de la communication, du regard, de la voix, ce genre de choses. Donc c'est vrai que je suis un profil vraiment très caméléon et très, très difficile à déceler. Donc vraiment, je me sentais vraiment pas bien du tout après ça. Et en plus, le jour même ou quelques jours après, je reçois un mail du centre expert de Versailles qui m'annonce qu'ils n'ont plus de place et que du coup, ils ne peuvent pas me prendre. Donc, double douche froide, le diagnostic que je suis en train de passer est à peu près ma seule chance d'avoir un diagnostic. Et j'étais à ce moment-là persuadée que le diagnostic allait être négatif. Quelques semaines après les tests, j'ai reçu le compte-rendu de la neuropsychologue. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui était vraiment très bizarre dans ses conclusions. Bon, j'avais complètement foiré le test ADOS, dans le sens où, clairement, avec les résultats qu'elle avait notés, je n'étais effectivement pas autiste. Mais ce qui était très étrange dans ce qu'elle m'avait dit, c'est que, selon elle, j'avais des capacités de communication qui étaient vraiment très très bonnes. Or, quand on regarde mes résultats au test de la VICE, donc le QI, parmi les items à passer, il y en a un qui est facultatif, mais qui est donc utilisé notamment dans le diagnostic d'autisme, c'est celui de la compréhension sociale, justement. Et il s'avère que c'est cet item sur lequel j'ai eu la note la plus basse. Il s'avère que j'ai... Donc, ça, ce test a confirmé que j'avais un haut potentiel. Mais j'ai un profil assez hétérogène qui va entre 115 et 134, si je me souviens bien. Et donc, incompréhension totale, mes capacités de communication sont très bonnes, pourtant c'est là où c'est mon plus gros point faible d'après mon profil psychologique déterminé par la Vice. Donc je me dis qu'il y a quand même un truc qu'elle a loupé et qu'elle n'a pas pris en compte et qui aurait dû être pris en compte. Arrive donc le dernier rendez-vous avec le psychiatre qui se fait par visioconférence parce que c'était au début du confinement. Je lui envoie le compte-rendu de la neuropsychologue et là il me dit qu'effectivement d'après le test normalement je ne suis pas autiste. Et c'est là que je lui explique du coup que moi ce que je trouve bizarre c'est que sur la Vice mon profil me dit que la communication c'est mon point le plus faible, mais pourtant que d'après elle j'ai une très bonne communication. Je lui explique aussi que je fais du théâtre, que je suis une femme, enfin je lui explique un peu tout ce que j'ai pu travailler pendant les semaines en attendant entre les tests et le dernier rendez-vous. Et je lui explique que voilà, moi je cherche pas à tout prix à avoir un diagnostic, mais quand même ça me semble un petit peu bizarre. Il me dit que oui, il trouve aussi, et que pour ce genre de cas un peu exceptionnel, il me propose d'organiser un rendez-vous avec mes parents. Donc j'envoie un message à ma mère et je lui demande si elle serait d'accord pour avoir un rendez-vous avec lui, pour parler plus du coup de mon enfance, de mon adolescence, de choses dont moi je ne me souviens pas vraiment, pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ma mère accepte. On arrête là le rendez-vous et quelques semaines plus tard, ma mère a le rendez-vous avec lui et on a calé un dernier rendez-vous, lui et moi, pour le diagnostic. Donc le rendez-vous avec ma mère se fait évidemment encore une fois par visio puisqu'on est au mois d'avril, donc toujours en plein confinement. Arrive enfin, fin avril, le dernier rendez-vous avec le psychiatre, encore une fois en visio. Et la première chose qu'il me dit, c'est que le rendez-vous avec ma mère s'est très bien passé et qu'il a confirmé ce que lui pensait déjà. Je suis bien autiste. Et là, je me suis sentie tellement soulagée, tellement heureuse. J'avais beaucoup de mal à y croire, mais c'était vraiment ça. Et ça m'a fait énormément de bien de le savoir et de me dire « ça y est, c'est bon, je sais ce que c'est ». Il m'a fait un certificat médical pour attester du fait que j'étais autiste et expliquer que ça me donnait droit à des aménagements pour l'école. Et on a calé ensuite un autre rendez-vous pour compléter le... pour compléter le certificat médical du dossier MDPH. Donc, j'ai complété ce dossier médical, le dossier MDPH, et il a été envoyé fin août et il a été enregistré à la MDPH le 4 septembre. Grâce à ce diagnostic, j'ai pu obtenir des aménagements à l'école, dont j'ai discuté avec ma directrice de la scolarité, qui ont été acceptés, notamment le droit de porter mon casque en cours si j'en ai besoin, l'autorisation d'utiliser des Steam Toys en cours et la possibilité de travailler seul sur certains exercices faciles comme des exposés ou ce genre de choses pour éviter d'avoir l'angoisse de devoir m'adapter à d'autres personnes, sachant que la charge de travail serait suffisamment basse pour que je puisse le faire seul. Tout ça a été accepté et pour le moment, ça se passe plutôt bien. D'aussi loin que je me souvienne, je me suis toujours sentie très différente des autres. J'étais toujours à l'écart, j'ai subi pas mal de harcèlement, j'arrivais pas à m'intégrer à l'école, dans mes activités extrascolaires, ce genre de choses. Pour ce qui est de mes particularités, déjà, j'ai une forte hypersensorialité. Donc, que ce soit le toucher, le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat, tout ça est vraiment très exacerbé chez moi. J'ai aussi une hypersensibilité émotionnelle. Je pleure beaucoup, tout le temps, dès que j'ai la moindre émotion forte. Et mes émotions sont vraiment très très fortes. J'ai du mal à regarder les gens que je connais pas bien dans les yeux. Et même les gens que je connais bien, ça me met assez mal à l'aise en général. Je fais du mutisme sélectif. Je fais de la néophobie alimentaire aussi, qui est un trouble de l'alimentation sélective à cause de mon hypersensibilité au goût. J'ai des grosses difficultés de communication et d'interaction sociale. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne. J'ai beaucoup de mal à comprendre le second degré. Souvent, je prends vraiment tout au premier degré, sauf parfois si le ton ou si la manière de dire la chose est vraiment particulière, j'arrive à le reconnaître, mais sinon c'est très difficile. J'ai beaucoup d'anxiété, j'ai besoin de pas mal de routine et surtout beaucoup d'anticipation. J'ai besoin de prévoir les choses à l'avance, de savoir ce qui va se passer, d'avoir des horaires, ce genre de choses. Et j'ai besoin aussi de consignes précises quand je dois faire des choses. J'ai des difficultés avec la fonction exécutive, ce qui fait qu'il y a certaines tâches qui paraissent simples que je vais avoir du mal à faire, soit parce que je ne connais pas les étapes précises, soit parce que je ne sais pas par quoi commencer. Et si j'ai pas un plan détaillé pour faire chaque chose, je suis pas vraiment capable de les faire, sauf si ça fait très longtemps que je les fais, et dans ce cas-là, j'en ai plus besoin, j'ai l'habitude, mais à chaque nouvelle chose, je dois apprendre à les faire en détail avant de pouvoir les faire seul correctement et de manière autonome.
Qu'est-ce qui est difficile pour toi dans la vie ?
Ce qui est le plus difficile pour moi au quotidien, en premier, je dirais que c'est l'hypersensibilité. Surtout à la lumière et au bruit, parce que c'est ce qui me fatigue le plus et je m'en rends de plus en plus compte. Surtout à Paris, c'est vraiment très très compliqué. Dès que je sors de chez moi, je suis assaillie par les bruits des voitures, des transports, des gens. Je peux pas écouter de la musique trop longtemps ou regarder des vidéos ou voilà, écouter des bruits comme ça très longtemps. Les fortes lumières aussi me font mal aux yeux, je m'en rends compte le soir quand j'ai la lumière du salon qui est allumée. Ça me fatigue énormément. Les écrans aussi, tous mes écrans sont à la luminosité minimum, j'ai un filtre anti-lumière bleu. Ça, c'est quelque chose qui m'aide pas mal. Ce qui m'aide un peu pour contrer l'hypersensibilité, notamment dans les transports, c'est mon casque anti-bruit qui m'a vraiment changé la vie et qui m'aide à vraiment réduire la fatigue quand je dois aller à l'école, au travail, dès que je fais des déplacements. La gestion des émotions est très compliquée aussi, parce que souvent je vais pas vraiment savoir exactement ce que je ressens et ça va être compliqué de communiquer dessus. Pour réguler un peu mon stress, j'utilise des steam toys et ça me sert aussi à me concentrer en cours par exemple ou sur certaines tâches. Mon cerveau part dans tous les sens et le fait de manipuler des objets, ça m'aide à le garder concentré. Et puis sinon, tout ce qui concerne les interactions sociales, la communication, c'est vraiment très compliqué et surtout très fatigant. Comprendre le second degré, communiquer sur ce que je ressens, communiquer sur mes besoins, sur mes envies, réussir à parler avec plusieurs personnes en même temps, dans un groupe par exemple. Tout ce qui est aussi autour du small talk, donc les petites discussions, parler de la pluie et du beau temps, c'est quelque chose que je ne sais pas très bien faire et qui peut être assez problématique dans la vie de tous les jours quand on rencontre de nouvelles personnes. Moi, j'ai besoin que mes conversations aient du sens et dans ces cas-là, ça n'en a pas. Et donc, j'ai beaucoup de mal à savoir quoi dire. Ce qui m'aide par rapport à ça, c'est un peu l'apprentissage, l'imitation, copier les gens, l'observation, Et sinon, le fait d'être entouré par des gens qui font attention, qui m'écoutent et qui comprennent, qui sont patients avec moi, ça m'aide aussi beaucoup par rapport à ça. Ce qui est facile pour moi dans la vie, même si j'ai besoin d'avoir un plan très détaillé pour apprendre de nouvelles choses, j'apprends vite. Ça, c'est quand même un gros avantage. Une fois que j'ai toutes les étapes en tête et que je l'ai fait une fois, j'ai plus aucun problème pour reproduire la tâche. Sinon, j'aime énormément écrire, même si c'est un peu compliqué depuis quelques temps, pour ce qui est de la fiction, on va dire. Mais j'adore écrire. J'aime beaucoup lire aussi, même si c'est vrai que avec toute la pression, le stress et les engagements que je prends, j'arrive moins à trouver du temps pour lire, mais c'est quelque chose qui me fait vraiment beaucoup de bien. Sinon, mes intérêts spécifiques, donc ce que j'aime par-dessus tout et ce qui m'aide un peu dans le quotidien à gérer toutes ces choses qui m'angoissent, c'est la mythologie, la littérature fantastique et plus précisément un livre, enfin plutôt une série de livres en particulier qui s'appelle The Shadowhunter Chronicles de Cassandra Clare. Il y a aussi le militantisme qui est quelque chose dont j'ai vraiment besoin dans ma vie. Et aussi les dessins animés et tout ce qui est films d'animation. C'est un peu ma petite bulle de bonheur et ma petite bulle de ressources où je me réfugie quand ça va pas et quand j'ai vraiment beaucoup trop de stress. Gérer le stress et l'anxiété, je crois que c'est assez difficile. Et là-dessus, pour m'aider, j'ai une couverture lestée qui m'aide pas mal pour dormir et qui m'aide aussi quand je fais des crises à les calmer quand j'ai personne d'autre autour de moi pour le faire. Sinon, je sais pas si j'ai vraiment des talents particuliers, à part peut-être l'écriture. J'aime bien chanter, mais c'est à peu près tout. Je sais très bien m'organiser. Je pense que j'ai un vrai talent pour l'organisation parce que j'en ai tellement besoin dans ma vie que j'ai été obligée de développer ça. Et j'aime énormément passer du temps avec les personnes que j'aime, même si parfois ça peut être fatigant. Souvent, ça me fait beaucoup de bien.
J'aimerais terminer cette petite interview en vous partageant le travail d'une personne qui m'a vraiment beaucoup aidée pendant mes démarches de diagnostic, pendant ma période un peu de questionnement et qui m'a aidée à me rendre compte de beaucoup de choses par rapport à l'autisme et par rapport à moi-même. C'est un youtubeur qui s'appelle Alistair et qui tient la chaîne H Paradoxae, qui parle beaucoup de handicap, d'autisme, mais aussi d'autres sujets comme la transidentité par exemple, la communauté LGBT+. Et je trouve que son travail est vraiment remarquable, et c'est vraiment ses vidéos qui m'ont le plus aidée à mieux me comprendre, à m'accepter, à mieux cerner mes difficultés, à trouver comment mieux les gérer, à communiquer un petit peu plus sur mes besoins et mes difficultés. Donc vraiment, je le conseille très fortement, aussi bien aux personnes autistes qui ont besoin d'un peu plus de renseignements, qui ont besoin de comprendre un peu ce qui leur arrive, mais aussi à toutes les personnes qui ne sont pas autistes et qui ont des personnes dans leur entourage qui le sont, ou même juste pour se renseigner, pour comprendre un peu mieux ce qu'on vit et ce qu'on ressent et les difficultés qu'on peut avoir.
Voilà, c'est terminé pour ce deuxième podcast participatif. Je remercie encore chaleureusement Karine et Elsa d'avoir témoigné. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, ça m'a vraiment, vraiment touchée et ça me parle énormément. ça doit s'entendre dans ma voix. Moi, je voulais terminer ce podcast parce qu'il me tient vraiment à cœur, en parlant de l'autisme. Je voudrais vous partager quelques lectures ou chaînes YouTube. Je vais essayer de faire simple, mais bon, ça va être compliqué de faire simple, de faire court surtout. Alors, déjà, moi, j'avais découvert l'autisme par la chaîne de Julie Dachet. Donc, Super Pépette, je crois que c'est ça. Donc, ces vidéos datent d'il y a un moment, mais elles sont toujours d'actualité parce qu'elles parlent vraiment de l'autisme féminin. Et elle fait d'ailleurs beaucoup de conférences. Elle faisait, en tout cas, pas mal de conférences. Elle est doctorante, elle avait fait une thèse, justement, sur les femmes autistes Asperger, etc. Ensuite, elle a écrit deux bouquins qui s'appellent... dont un qui est une BD qui s'appelle La différence invisible. Je l'ai lu il y a quelques mois et pareil, je crois que je l'ai lu en une soirée. Après, c'est très facile à lire, mais ça se lit vraiment très très bien. Les illustrations sont magnifiques. Pour quelqu'un qui aime les couleurs, j'ai trouvé que c'était très bien imagé. Et voilà, et du coup cette BD m'a fait pleurer, m'a complètement bouleversée. Après, j'ai voulu du coup lire Dans ma bulle de Julie Dachet, du même auteur, qui est aussi un ouvrage excellent et qui d'ailleurs à la fin de cet ouvrage je me sentais révoltée parce que c'est une militante, une féministe militante justement qui se bat pour les droits des autistes, notamment chez la femme. Et j'avais vraiment, enfin c'est l'une des choses qui m'a fait faire ces podcasts, je vais y arriver, pour informer et sensibiliser sur ce sujet. Et je me suis même dit, tiens d'ailleurs, peut-être qu'un jour je ferai des conférences aussi, alors que c'est quelque chose de très très compliqué pour moi. Après, je peux aussi vous conseiller d'autres bouquins sur ce sujet. Il y a le guide complet sur le syndrome d'Asperger de Tony Atwood qui est une référence. Seulement, pour ma part, il est très détaillé, très complet, très scientifique. Pour ma part, je l'ai apprécié seulement. C'est très difficile de s'y reconnaître en tant que petite fille ou femme. Il n'y a finalement que des courts passages là-dessus. Donc si on a envie d'en connaître un peu plus sur nous, je vous conseille d'autres ouvrages. Par exemple, Asperger au féminin de Rudy Simone, qui est excellent. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'il y a aussi beaucoup de témoignages dans ce livre. Donc voilà, et je me suis énormément reconnue, ça m'a beaucoup apporté, et c'est ce qui m'a fait d'ailleurs faire un diagnostic par la suite. Et puis du coup, après, en chaîne YouTube, je peux vous conseiller Dans les yeux d'April. Donc Mathilde, en fait, c'est une femme qui parle de l'autisme, parce que du coup elle a découvert qu'elle était autiste là cette année en janvier 2020. Donc elle explique tout son parcours diagnostique, elle explique énormément de choses et moi ça m'a tellement ouvert les yeux. Je me suis reconnue à fond dans son profil, notamment parce que comme pas mal d'autistes que j'ai rencontrés Asperger, femmes cumulent avec un haut potentiel aussi. Intellectuel, émotionnel, je sais pas, peu importe comment, un haut potentiel, quoi. Donc des hypersensibilités et tout ce qu'on met derrière ce mot. Donc je me suis énormément reconnue. Je pense que ça peut vous aider. Il y a évidemment la chaîne HP Paradoxae, mais ça a déjà été conseillé. Et puis ensuite, je réfléchis. Bah après, les podcasts, j'en ai pas trouvé beaucoup. Il y en avait un qui m'avait beaucoup parlé, mais du coup, il s'est arrêté. Voilà, bon, je pense que je vais m'arrêter là. C'est déjà pas mal pour vous donner quelques sources. Maintenant, c'est beaucoup de témoignages, etc. Mais c'est vrai que je trouve que ça aide beaucoup pour déjà faire une sorte de premier autodiagnostic. Parce que l'autodiagnostic, c'est clairement, pour moi, essentiel, une étape en fait essentielle avant un diagnostic officiel, parce qu'on ne va pas un diagnostic comme ça sans avoir pensé probablement qu'on est autiste. Donc c'est une phase en fait, c'est une étape. Maintenant, c'est bien d'avoir l'avis d'un professionnel, d'avoir un diagnostic officiel pour du coup en savoir beaucoup plus sur nous, pour essayer de comprendre nos spécificités, d'essayer de mieux appréhender ça, et puis d'avoir... éventuellement des aménagements. Donc voilà, moi, comme je vous dis, je suis encore en phase... j'ai déjà passé mon diagnostic, mais j'attends le compte-rendu. Et je vais continuer mon diagnostic avec un psychiatre pour avoir un diagnostic officiel. Donc ça va être encore un peu long. Mais je vous ferai un podcast d'ailleurs à ce sujet, sur toute l'étape diagnostique, où j'ai fait des audios un peu détaillés. Voilà, bah écoutez, je vous remercie pour vos... d'être là pour écouter ces podcasts, de l'enrichir. N'hésitez surtout pas à le partager, peu importe quel épisode, celui qui vous parle le plus. Si celui-ci vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous, à vos proches, sur vos réseaux, peu importe, pour que les personnes puissent découvrir ces témoignages. Et en attendant, écoutez, moi je vous souhaite une très 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 belle journée, ou soirée, ou que sais-je, et puis un reconfinement, ou après je ne sais pas où vous êtes, dans quel pays, mais en tout cas, un reconfinement, pour nous les Français, c'est comme ça que ça se passe en ce moment. Donc je vous souhaite beaucoup beaucoup de courage. Donc n'hésitez pas à me contacter, soit par mail, je vous laisserai l'adresse du coup en description, ou alors sur Instagram, vous pouvez me parler aussi en message privé, sans problème. Voilà, du coup, je vous dis à très très bientôt.